L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
décidé de faire une surprise à Florence. Aller la voir cette nuit chez elle. Elle va être drôlement surprise de me voir débarquer dans sa chambre cette nuit. Je suis Roméo. Il fait nuit. Le mur de la propriété est assez haut. Mais le mur est vieux et il y a des trous. En faisant bien attention, j'arrive à monter. Enfin, me voilà en haut du mur. Faut sauter de l'autre côté. Il y a une branche d'arbre. Se lance sur la branche avec ses deux mains. Les agrippe et descend de l'arbre. Essoufflé, mais il y est arrivé. Pas faire de bruit. Heureusement qu'il n'y a pas de chien. Vite, elle va vers la maison. Pas de bruit. Sa chambre est au premier, là, avec le balcon. La maison semble silencieuse. Réfléchis. Comment faire pour monter jusqu'au balcon? Tout à coup, la porte de la maison vient s'ouvrir. Vite se cacher derrière une haie. C'est Florence, habillée en robe blanche. Son père est derrière elle. Il porte un costume beige. Il lui dit « Où vas-tu? Je t'en supplie. Non, ne t'en va pas. Non, père, j'en ai assez. Je ne veux plus. Mais je t'aime, tu comprends ?» Il veut la prendre dans ses bras. Elle se dégage. « Non, père, je ne veux pas. » Il essaye de l'embrasser. « Non, père !» Personne ne le saura. Allez, je t'en prie, je t'en supplie. Ne fais pas ta mijaurée. Et ne fais pas souffrir ton père. Non, père! Non, je ne veux pas, je pars. Il la maintient bien contre elle et cherche à l'embrasser. « Vous me dégoûtez! Lâchez-moi !» Il se dégage. Va, la rejoindre, veut la reprendre. Elle lui donne une gifle et s'éloigne. Furieux, il lui crie « Garce !» La prend par derrière, la retourne d'un coup. Oh, il est furieux. « Tu n'es qu'une petite allumeuse. C'est toi qui m'as astiqué en te montrant à moitié nu. Ah, tu en voulais, hein? Et maintenant, tu ne veux plus, salope !» Elle le regarde droit dans les yeux. Te défie. Il la gifle. Et de toutes ses forces, il a tout fait tomber à la renverse. Oh, il tombe sur elle.
Non, père, laissez-moi.
Non, salope! Il la maintient bien serrée, sous lui. Et de ses mains, il essaye de la déshabiller. Mais elle gigote. Fleur voit tout ça, comme paralysée. Elle ne peut réagir. Le père furieux donne un coup de poing au visage de la fille qui l'assomme. Vite! Il lui déchire ses vêtements. Qu'elle est presque nue, il se déshabille. Il est comme fou. Et la prend en la plaquant sur lui. La chose est faite, il se relève. Elle reste inanimée, les jambes écartées. Au milieu de vêtements déchirés, elle se réveille. Pleure. Se relève.
Quoi?
Et... péniblement, elle va vers la sortie. Elle est près du portail, en sanglotant. Lui la suit. Lui dit, Florence, ma chérie. Elle ne répond pas. Arrive au portail, elle fait le geste de l'ouvrir. Il panique. Prend une barre de verre qui se trouve à terre pour ouvrir le portail. La prend et lui donne un coup sur la tête. Le coup la fait tomber à terre. Il lâche sa barre de fer. Le corps est tombé, la tête en avant à terre. Florence ne bouge plus. Il y a du sang sur la tête. Flore sanglote, paralysée. Il lève la tête comme s'il avait entendu un bruit. Elle a peur, transpire, et la honte de ne pas avoir agi. Et voit avec horreur que le père s'approche d'elle. Alors instinctivement, elle se met à courir, à courir. Le père lui court après. Il lui court après par derrière. Et... elle est tirée, poussée, portée. Et puis, un bruit étrange. Un bruit étrange, et après, l'horreur. Elle est comme dans un trou noir. Un trou noir métallique. Et ce bruit horrible. Puis, le feu. Se réveille, du blanc, à la tête vide. Ne se souvient de rien. Un homme se penche vers elle et lui dit « Bonjour Florence, t'es enfin réveillée? Tu vas mieux ?» Elle ne dit rien. Elle ne peut rien dire. Elle ne sent rien. Elle ne sait pas qui elle est. Qui sont-ils? Que font-elles d'elle? Où est-elle? Elle ne sait rien. Elle se rendort. Deux hommes se penchent vers elle. L'un a en blouse blanche. L'homme en blouse blanche lui dit « Vous avez eu un grand accident, mais tout va bien, vous êtes soigné. » Vos blessures et votre visage avait beaucoup de cicatrices. On vous a mis des pansements. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous voir. Elle ne sait pas. Elle a perdu la mémoire. On lui pose des questions, elle ne dit rien. Elle ne sait rien. Le docteur dit que c'est dû à son accident. Elle ne peut pas se reconnaître parce qu'elle a perdu la mémoire. Elle est ramenée chez celui qui se dit être son père. Il est très gentil. Elle a retrouvé, soi-disant, sa chambre. Une infirmière s'occupe d'elle et un bon médecin. Elle se remet petit à petit, parle un peu, mais se souvient de rien. Accepte celui qui se dit son père, soit son père. Fleur et Florence. Le verre s'est brisé. Les verres se sont brisés. Elle se souvient de tout. Tout est revenu. Elle n'a plus peur du noir. L'ombre est toujours près de son lit, mais n'a pas peur, éclaire la lampe de chevet, voit qui est penché sur elle. René ? Elle lui demande, mais que fais-tu ici ? Il est penaud. Il lui dit, je comprends, mon beau-père t'a payé pour que je devienne folle, dis-le-moi. Il lui dit, oui, j'étais obligé de le faire, il me faisait chanter. Parce qu'il m'a vu dans une position équivoque avec un de ses stagiaires. Il pleure et dit « Je ne pense plus à tout ça. Je me moque de tout ça. C'est fini pour moi. » Et tout se sent autour de moi. Ces crimes, c'était toi ? Il ne lui dit rien. C'est lui qui m'a forcé. Je te demande pardon. Il voulait que tu deviennes folle. Mais la plupart des crimes étaient des mises en scène. Oui. Des mises en scène simplement pour que tu puisses croire que tu es folle. Et mon mari, est-il mort ? Oui, bien sûr, mon mari, il est mort, il lui dit. Oui, bien sûr, on a voulu, c'est te faire croire pour que tu puisses le déterrer, comme ça pour que tout le monde puisse te croire folle, et même toi. Ce serait été plus facile pour qu'il devienne ton tuteur. Je suis navré pour tout ça. Elle lui dit, ça n'a plus d'importance maintenant. Je suis libre. Moi qui te croyais mon ami, qu'est-ce que tu es venu faire ce soir ? Il lui dit, simplement voir si tout va bien. Et soupir, elle lui dit, tu veux me voir ? Ben tu vois, je n'ai été qu'une spectatrice de cette vie qui n'était pas la mienne. J'ai retrouvé ma mémoire. Maintenant je suis moi. Je veux oublier volontairement tout ça. Et vivre, vivre. Il lui demande, que vas-tu faire ? Elle lui dit, je quitte tout. mais ne dis rien. Tu me dois bien ça. » Il lui dit, « Je te le promets. » Elle lui dit, « Maintenant va-t'en, c'est fini. » Il s'en va penaud. Elle se rendort. Oui, elle se rendort. Elle pourrait aller à la police, tout leur dire, mais à quoi bon, on la prendra pour une folle. Elle en a fini avec tout ça. Le lendemain matin, elle prépare ses bagages, juste une valise, et sort de chez elle. Va à la banque pour faire changer son compte. Puis elle va à l'aéroport Charles de Gaulle prendre un billet pour New York. Prend un G7. Un peu plus tard, quelques années plus tard, elle a créé une maison de couture. Elle se fait appeler Marie-Christie. Elle a rencontré un charmant jeune homme, un cinéaste, Charles Broderick. Elle est mariée et est heureuse. 13 heureuse. Sa maison de couture marche bien. Elle habite dans les environs de New York. Une belle maison. S'est fait de nombreux amis. Elle a oublié son passé. Mais cette fois d'une façon volontaire. Les années passent. Fait sombre, toujours les volets fermés, même la journée, ça sent le renfermer et c'est sale. Plaqués l'un contre l'autre à terre, comme des petits chatons, tu crois qu'ils vont revenir? Je ne sais pas, et c'est mieux comme ça. Pourquoi est-il gentil avec toi? Non, il est méchant. Il s'occupe toujours de toi. Non, il est méchant. J'ai faim. Il pleure. L'autre lui donne un baiser sur la tête. Attends, je vais te chercher à manger. Il se lève. Il a l'habitude de marcher dans le noir. Il sait qu'il n'y a rien à manger. Alors il prend un vieux papier journal, le découpe en petits morceaux et va près de lui. Tiens, mange. L'autre mange des bouts de papier. Il a l'habitude. C'est pas très bon à manger, mais ça tient un peu. Puis se blottit contre son frère. Il aime ça. Il n'y a que son frère qui accepte ça. entendent du bruit. Ils demandent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est la rue. La porte qui s'est ouverte. On se penche sur eux. Ils se blottissent l'un contre l'autre. Deux mains se penchent sur eux. Ils les séparent, ils pleurent, crient, essayent de se défendre. On les sort de l'appartement, descendent les escaliers. Ils ont peur, le bruit, la lumière. On les met dans une voiture qui roule. La voiture fait un bruit terrible. Ils sont effrayés. Puis, on les fait entrer dans une maison. On veut les séparer. Les hommes en noir n'y arrivent pas. Alors on les laisse ensemble. On les fait asseoir sur des bancs. Un gros homme, penché sur eux, leur dit « Des voisins nous ont prévenu que vous étiez enfermés chez vous, sans nourriture, abandonnés. Il paraît que vos parents vous battaient aussi. N'ayez plus peur. Nous allons vous mettre dans une famille d'accueil et vous serez très bien. » Ils paniquent et se tiennent en lancée. Ils sont nés chez une femme à lunettes et un petit homme chauve. La femme cherche toujours à les séparer, mais ils veulent toujours être ensemble. Ils ne parlent pas, restent sur leur garde et entre eux. Le temps passe. Le plus petit est plus sociable. Mais l'aîné, non. Il veut toujours être avec le petit et lui dit « Tu es à moi ». Et veut lui donner à manger et le faire jouer. Malheureusement, le petit se laisse de moins en moins bien, de moins en moins faire. Le temps passe, ils sont devenus adolescents. L'aîné est toujours enfermé sur lui-même, il a raté ses études. Il voit que son frère, lui, a réussi. Et il cherche à se dégager de son frère, le petit, ce qui fait souffrir son frère. En se promenant dans la campagne, l'aîné dit « Je regrette le temps où nous étions que tous les deux. Pourquoi ? Parce qu'on n'était que tous les deux. » Un jour passe vers eux une jeune fille. Le jeune la salue. Le grand en souffre beaucoup. Lorsque les deux garçons se retrouvent dans la chambre, le jeune dit « Je vais voir une fille. » Et moi alors ? qu'à en chercher une. Moi, je veux avoir une amie. L'autre lui dit, non, tu es comme moi, et tu n'es rien qu'à moi. Non, c'est impossible. L'aîné veut le prendre, il se dégage. Non, laisse-moi. L'aîné est furieux et lui dit, tu ne veux plus? Tu te laisses prendre par cette fille? Le jeune frère lui dit, fais comme moi. Et nous serons pareils. L'aîné a une illumination. Oui, s'il faisait la même chose que son frère, il serait pareil. Il faut que lui aussi aille avec une fille. Il se regarde dans la glace, se trouve pas mal, blond, cheveux coupés courts, mince, mais pas maigre, visage lisse, il peut plaire, et puis il ressemble à son frère, et son frère plaît. Alors il décide d'en draguer une et de s'en faire une. Oui, pourquoi pas s'en faire une? Alors il cherche. Il cherche dans les bars, les boîtes. Mais lorsque lorsqu'une fille cherche à flirter avec lui et qu'elle cherche à l'embrasser, ça le dégoûte. Ça le rappelle trop ce qu'on faisait à son frère. Ce qu'on faisait son père avec lui. Malgré que ce ne soit pas la même chose. Avec son petit frère, c'est pas pareil. Il le protège. Avec son petit frère, c'est pas pareil. Il le protège. Et puis, il fait pas des gestes comme ça. Dès que la fille essaye de le toucher, ça lui donne envie de vomir. Ça le rend en colère. Il se trouve moche et ça l'émeut. Il tremble et devient violent. La fille le repousse. Ça l'énerve. Il veut absolument y arriver. Il se dit, si elle me repousse, je la bats. Mais lui ne se rend pas compte que c'est lui qui instinctivement ne veut pas la fille parce qu'il a peur. Il est furieux parce qu'il n'arrive pas à faire avec les filles. Il n'arrive pas à faire avec les filles parce que ça le dégoûte, parce que ça lui rappelle ce que faisait son père sur lui. Les gestes et tout. Il est paralysé. Mais il se sent obligé d'aller avec les filles. Et comme il ne peut pas faire, au lieu de porter sa fureur contre lui-même, il la porte contre la fille, qui pourtant, la fille, aimerait bien aller avec lui. Pourtant, il fait beaucoup d'effets aux filles. Mais lui, chaque fois qu'il est avec une fille, il devient de plus en plus violent avec elle. Et se dit que ce ne sont que des allumeuses. Bien sûr, lui, il est allumé par elle, mais Il ne peut rien faire. Il veut prouver qu'il est un homme pour faire comme les hommes. Se prouver à lui-même aussi. Quitte même à en violer une. Mais ce n'est que de l'orgueil pour faire comme les autres. En réalité, le seul sentiment qu'il a, c'est pour son frère et rien d'autre. Quand il voit son frère, il lui dit: tu sais, les filles, elles sont toutes pareilles. Et puis il se dit, puisque son frère a des filles, a réussi à en avoir et à aller avec elles, il faut que lui aussi en ait. Ils se sont obligés. Mais il se force, parce qu'en réalité, il n'en a pas envie. Et se forcer d'avoir des rapports avec les filles le rend violent et porte toute sa haine sur les filles. Les jours passent, il recherche toujours les femmes dans les bars, les rues, ne trouve pas. Ben c'est lui qui ne veut pas trouver. Elles ont peur de lui. Et ça le met encore plus en colère. Fleur sort d'un grand hôtel des Champs-Élysées, le plus grand hôtel de Paris. Il fait nuit doux. Elle est revenue à Paris pour présenter sa nouvelle collection de haute couture au Grand Palais qu'elle a loué pour la circonstance. Cela ne gêne pas de retourner à Paris. Après toutes ces années, son histoire est bien finie. Elle est une autre femme, libre et heureuse. Marche dans les rues calmement, au hasard. Puis, entre dans un restaurant, un grand restaurant chic. Décor 1900. Des serveurs en tenue vont et viennent dans la salle. Elle se commande un bon dîner. Une heure plus tard, elle sort du restaurant. Elle n'a pas envie de rentrer dans son hôtel tout de suite. Elle a quitté sans faire attention les grands boulevards. Elle se trouve dans une rue qui est plus calme. Elle est presque déserte. Mademoiselle ? Elle se retourne et voit arriver à elle un jeune homme dans les 20 ans. Peut-être blond, grand, sympathique, de physique, habillé d'un costume gris. Une fois vers elle, elle lui dit: « Oui, et lui dit, je vous trouve très belle. Merci. Pourrions aller quelque part? Elle lui dit, non, merci, je dois rentrer. Et puis, je suis mariée. Il lui demande, pourquoi vous ne voulez pas? Et lui dit, mais je ne veux pas. Je ne vous plais pas. Ça ne vous regarde pas. Il est furieux contre elle. Encore une fille comme ça. Encore une fille qui ne veut pas. Il la plaque. La pousse dans un renfoncement d'une porte. Elle fait... Ah! Il lui a mis la main sur la bouche. Il veut se dégager et paniquer. Mais il la plaque bien contre lui. Un passant passe, mais il ne fait pas attention. Il panique de plus en plus. Alors lui, ça l'excite encore plus. Le corps de Fleur sera retrouvé une heure plus tard. La police voit qu'elle a été violée après l'autopsie. La troisième vie de Fleur s'est achevée. Elle a eu la fin de celle qu'elle a remplacée. Cette œuvre, qui à mon goût est beaucoup trop petite, mais je pouvais bien faire mieux. Il est vrai que j'ai commencé à travailler cette histoire seulement quelques semaines après Un ange passe. Très court de faire deux histoires. Surtout que j'aurais dû mieux la préparer. Mais j'avais ma vidéo à faire, les illusionnistes, avec beaucoup de problèmes techniques, ma sœur qui est tombée malade, plus les autres complications, la SCAM qui ne répond plus, etc. J'aurais dû m'appliquer pour le style, faire mieux vivre les personnages. J'ai raté la gouvernante et la belle-mère, qui auraient pu être les piliers de l'histoire, car là, elles ne font rien. Elles auraient peut-être dû être plus cruelles, mystérieuses. Là, elles ne sont rien. Ce qui me gêne, c'est que j'y suis pas arrivé. C'est idiot, mais j'y suis pas arrivé. Puis j'ai pas écrit l'histoire suffisamment longue. C'est ma plus petite histoire depuis à peu près 10 ans. Elle ne fait que 790 pages. La prochaine fois, j'écrirai une histoire beaucoup plus longue. Mais lorsqu'il y a un mystère, on ne peut pas aller trop loin parce qu'on risque de tourner en rond. Enfin, c'est fini. Je ne peux plus y toucher. Je verrai un enregistrement. Enfin, ça, c'est ce que je me dis avant de commencer l'enregistrement. Ce que je pourrais faire. Je voulais faire l'enregistrement en septembre, mais en réalité, je l'ai fait avant. Enfin, et puis en plus de ça, j'ai des ennuis avec mes appareils à enregistrer. Puis les appareils ne supportent pas la chaleur. Enfin, nous verrons. Peut-être est-ce que ça ira mieux avec la musique, la mise en onde, les bruits, etc. Et peut-être pas vraiment tout à fait raté. Malgré toutes ces excuses, j'ai honte de ce que j'ai fait. Je me traite de feignant, de bon à rien. J'ai du remords. Je me sens incapable, mais de rectifier, parce que j'ai la tête embouillie. Je me jure que la prochaine histoire sera mieux écrite. Un sujet plus intéressant, avec un développement plus long. Et surtout, que je puisse entrer dans l'histoire. Surtout, sentir mes personnages. Là, rien. Enfin, ça s'arrangera peut-être avec ce que je ferai une histoire plus intéressante. Lorsque j'ai enregistré l'émission, que je viens de finir l'enregistrement, j'étais malade, j'avais des difficultés, je pouvais me déplacer, c'est pour ça que je n'avais pas eu de bruit de pas, etc. Et puis, j'avais des difficultés, des maux de tête terribles, ma tête. Et j'avais peur, je voulais enregistrer le plus vite possible parce que j'avais peur, c'est de pas pouvoir finir mon émission, étant donné que j'étais malade. Et j'avais peur aussi, c'est que ce soit ma dernière émission que je fasse à cause de ma maladie. Alors que, voilà, j'ai fini l'enregistrement du VHS le 30 juillet 2005 à 20h30. Et j'ai fini l'enregistrement des mini-disques le 1er juillet 2005 à 23h20. Alors là, j'ai beaucoup souffert en recopiant l'émission sur mini-disques parce que je me suis aperçu que ma langue blessait, que je disais un mot pour un autre. Que j'ai dit, enfin, certains moments, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, c'est pas bien du tout. Bon, j'ai des excuses parce que j'étais malade, mais j'espère c'est que la prochaine fois, je ferai très attention parce qu'il faut que j'évite absolument de dire un mot pour un autre. Ça ne va pas du tout. Il y a certains mots que j'ai dit. Ben je ne me souviens plus quel mot que j'ai dit, mais ça n'allait pas du tout. C'était pas du français, tout ça. C'était une horreur. Je voulais dire aussi une chose, c'est que lorsque j'ai parlé dans les films, et les films pour enfants et tout ça, c'est que je vous ai dit que pour Ballon Rouge, Renaud avait joué dedans, mais Patrick Devers jouait aussi quand il était enfant à la télévision. Il jouait dans les années, disons, fin 50 et années 60 avec son frère pour l'émission au théâtre, le théâtre de la jeunesse, théâtre de jeunesse qui passait le jeudi après-midi, le samedi après et le samedi soir, qui était une émission très très, enfin que les gens aimaient beaucoup. Et cette émission se passait, était jouée en direct, pas filmée, en direct dans les studios de Butte-Chaumont. C'était des émissions, des adaptations de romans pour la jeunesse et c'était vraiment très très bien fait avec Claude Santelli, je trouve. C'est que Patrick Devers, lorsqu'il était enfant, jouait mieux que lorsqu'il est devenu adulte. Lorsqu'il est devenu adulte, il en faisait un petit peu trop, il faisait un petit peu trop le clown et c'est bien dommage. Il en faisait des tonnes et c'est bien dommage. Tandis que lorsqu'il était enfant, c'était pas pareil. Il a fait de nombreuses dramatiques hein, et en direct, ce qui fait que quand il fallait faire de la télévision en direct, jouer des pièces en direct dans les studios, c'était et coller avec des décors de cinéma, c'est-à-dire pas des décors de théâtre, c'était avec plusieurs caméras et tout ça. Il fallait bien connaître son texte par cœur, exactement ce qu'on devait faire, faire ce qu'on en devait faire, parce qu'on ne pouvait pas retourner en arrière comme pour le cinéma. Il y a aussi un film que j'aurais bien aimé voir et que je trouve pas non plus, c'est Thomas l'imposteur de Franju, d'après Jean Cocteau. Ça, c'est un film qu'on ne voit pas, j'ai vu qu'une seule fois à la télévision. Et j'ai demandé, bon, on le voit plus au cinéma non plus, peut-être parce que c'est un film en scope, mais en noir et blanc. En vidéo, ça n'existe pas, en DVD non plus, c'est dommage. Il y a aussi un autre film que j'aimerais bien voir, revoir en tout cas, c'est Première Arme. Première Arme, ou Première Armée, Première Arme ou Première Armée, c'est un film sur les jockeys qui est très très dur, vraiment très puissant et très dur. Le film a été tourné dans la région lyonnaise, c'est un film sur les étudiants jockeys, les apprentis jockeys, je veux dire, est vraiment très très dur. C'est un film là aussi qui est passé au début des années 60 à la télévision, qui est passé deux fois au début des années 60 à la télévision. D'ailleurs, il y a un de mes amis qui avait à peu près mon âge, qui avait 15-16 ans, et lorsqu'il a vu le film, ça lui donnait envie d'être jockey. Enfin, moi, ça ne m'aurait pas donné envie d'être jockey, parce que c'est vraiment l'horreur. Voilà. C'était vraiment l'horreur. Et ça aussi, ça n'existe plus. Le film, on ne le voit plus nulle part, ni à la télévision, ni nulle part, en DVD, en VHS. Il n'existe plus. Voilà, j'ai fini. J'ai fini l'enregistrement de cette émission, de cet épisode. L'histoire est finie. Vous allez avoir le générique comme d'habitude. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle émission qui, j'espère, sera mieux faite que celle-là. Celle-là, vous allez l'écouter peut-être dans 10 ans ou je ne sais pas, ou quand je serai mort, je ne sais pas exactement, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions d'avance. Mais je vous jure, je vous promets, c'est que la prochaine émission que je vais écrire sera beaucoup mieux écrit, je serai moins malade, mais là j'avais vraiment peur, c'est de, si vous voulez, que ce soit ma dernière œuvre, et il fallait absolument que je termine, je la fasse et que je la termine, parce que je ne voulais pas laisser une œuvre non finie. Au revoir. Enfin, au revoir, oui. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène,
Junier Jean-Pierre.